Alors, le deuxième dispositif que je vais vous présenter est totalement différent. C'est un QCM formatif, auto-évalué, mais avec les pairs. Alors, ce QCM a lieu 3 fois dans mon enseignement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que le faire une fois, c'était pas mal, mais le faire deux fois, c'était super, et le faire 3 fois, on en tirait tout le profit. Et peut-être qu'avec ce qu'on a vu avec Gilles tout à l'heure, c'est encore mieux si on pouvait le faire plus souvent.
L'enseignement dure combien de temps? Je sais pas si.
Alors, c'est un enseignement qui dure 64 heures de temps présentiel et où les étudiants travaillent à peu près la même durée en autonomie. Et donc, ce QCM est une activité qui prend à peu près 1 heure. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose de simple, mais ça a un côté magique dans sa mise en œuvre, parce que c'est une des seules activités où, brusquement, pendant une évaluation, on va avoir des étudiants qui commencent à s'applaudir, à chahuter, à être contents, ou à crier de détresse, ou enfin, à manifester les choses très bruyamment. Et donc, c'est vraiment très surprenant à mettre en place et très efficace. Alors, quel était l'objectif, les enjeux de cette activité? C'était de, avant tout, créer une expérience de vie, changer l'évaluation traditionnelle qui fait peur, qui donne la boule au ventre, et pour créer un moment de partage avec les autres, un moment où on va pouvoir véritablement apprendre. Et comme les phases d'apprentissage ne se passent pas en transmissif avec l'enseignant, le but aussi était de leur permettre de développer leur autonomie pour apprendre. Alors, on avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était d'apprendre à argumenter, parce que l'argumentation va être un bon moyen de mémoriser et d'intérioriser les connaissances. Apprendre donc à s'auto-évaluer, parce que l'auto-évaluation permet de faire le point à tout moment sur là où on en est et de corriger le tir. Et d'apprendre à respecter les autres, à respecter leurs idées. Alors, voici le dispositif. Donc, le dispositif se passe en 3 étapes. La première étape, classique, est le fait qu'on donne un QCM à réaliser aux étudiants. Alors, ce QCM, les étudiants sont prévenus. Ils savent qu'il a lieu, ils ont l'ensemble des concepts qui sont à avoir appris pour ce QCM. On est plus ici sur des évaluations de connaissances et non sur de la compétence. Et ils sont incités à préparer ce QCM en groupe. Alors, vous allez voir, dans un premier temps qu'on met en place le dispositif, les étudiants viennent comme ça. Et la deuxième fois, le dispositif a lieu, ils ont complètement changé de stratégie d'apprentissage. Parce qu'il y a une stratégie à avoir pour réussir ce type de QCM. Et du coup, je pense que c'est une stratégie qui est mieux pour mémoriser pour eux. Donc, ils réalisent ce QCM seuls. Ça dure 20-25 minutes, une vingtaine de questions. Il faut qu'elles soient un peu difficiles. Enfin, il ne faut pas que les questions soient évidentes. Il ne faut pas qu'on puisse éliminer les unes par rapport aux autres. Donc, il y a un moyen de construire le QCM, mais je ne m'y attarderai pas. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, à la fin de ce QCM, je vais récupérer une feuille qui est la grille de leurs réponses. En fait, j'utilise un outil, on pourra y revenir tout à l'heure si vous le désirez, où les étudiants remplissent leurs réponses et sur une grille séparée, on peut récupérer une feuille. Donc à la fin de ce temps-là, je récupère cette feuille. Ça me permet de faire des stats, je vous en parlerai après. Et donc là, survient la deuxième phase. Cette deuxième phase, donc, les étudiants sont déjà positionnés en groupe, hein, ils sont autour de table tous ensemble, ils ont fait leur QCM tout seuls dans le silence. Ils ne se sont pas copiés, hein, c'est le seul critère pour ne pas avoir une note éliminatoire, c'est de ne pas se copier, ils doivent le faire seuls. Et maintenant, ils passent en groupe. Et là, le but de réaliser ce QCM en groupe est que le groupe trouve la bonne réponse. Et c'est important de leur dire de ne pas faire de vote à la majorité, on n'est pas en démocratie, ils sont là pour argumenter, pour trouver le raisonnement ou les arguments scientifiques qui vont faire, qui vont pouvoir convaincre les autres de leur solution. Et c'est là, en fait, où on se rend compte que lorsqu'on réalise une deuxième fois cette activité, les étudiants ont changé de stratégie. Parce que c'est une chose d'apprendre pour connaître la réponse, mais c'est autre chose d'apprendre pour être capable de convaincre quelqu'un d'autre qu'on a raison. Et donc ça met d'autres mécanismes en jeu. Et quand on se rend compte qu'en fait, le fait de réaliser ce QCM en groupe pour la première fois, ça va changer les stratégies de préparation. Parce que si on a préparé en groupe le QCM, eh ben c'est bien plus facile de convaincre les gens parce qu'on a déjà une expérience commune à partager. Donc les étudiants réalisent une deuxième phase en groupe. Cette phase doit durer plus longtemps parce que ça nécessite beaucoup d'échanges entre eux, ils parlent énormément. Les étudiants qui sont étrangers ont un peu plus de mal, donc dans ce cas-là, parce que les questions sont en français, elles sont complexes, elles sont techniques, donc il faut leur laisser un peu plus de temps. Et enfin, il y a une troisième phase qui est complètement essentielle. On pourrait avoir tendance à l'oublier, parfois ça nous est arrivé, et on s'est rendu compte que c'était une véritable erreur. Vaut mieux prendre 20 minutes de plus sur l'activité que de supprimer cette dernière phase, c'est le bilan. Et là, on donne la correction aux étudiants. En fait, ils ont un feedback qui est quasiment instantané. Dans la seconde où le groupe a fini de remplir son questionnaire, on leur donne la correction avec les réponses. Alors, ce qui est pas mal, c'est que ils vont pouvoir voir leur performance, voir celle du groupe, et pendant que les étudiants vont circuler dans la salle pour rencontrer les différents groupes pour lesquels il subsiste une incompréhension ou un petit débat sur un point d'une question qui est un peu floue, on va leur demander de produire une feuille pour chacun des groupes où ils vont devoir écrire pourquoi ils se sont trompés. Ça peut être n'importe quelle raison. Ça peut remettre en cause l'enseignant, vous m'avez mal expliqué, ou il n'y avait pas ça, il n'y avait pas telle ressource. La plupart du temps, on se rend compte qu'ils se remettent eux-mêmes en cause, leur façon d'avoir appris, leur engagement, leur investissement. Et ce temps est vraiment très important pour leur permettre de diagnostiquer ce qui ne va pas. Et lors de la deuxième itération de ce QCM, on se rend compte véritablement qu'ils ont changé de stratégie d'apprentissage. Mais même une seule fois, si vous avez envie de tester, vous verrez que lorsque vous allez donner la correction, déjà tout doucement, le niveau sonore a augmenté dans la salle parce qu'ils commencent à argumenter. Ils se rendent compte que ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison. Et là, vraiment, ils se rendent compte lors du bilan, c'est que parfois, un groupe entier s'est fait retourner par une seule personne qui a du bagou et qui avait tort. Ou alors, la personne qui avait raison, bah, elle n'a rien dit, elle est restée timide, et finalement, le groupe n'a pas eu de bonne réponse. Et ça leur fait quelque chose. C'est absolument pas noté, mais ça leur fait quelque chose de ne pas avoir réussi en groupe à trouver la bonne réponse. Et on se rend compte, globalement, que les résultats en groupe sont nettement supérieurs aux résultats individuels de chaque étudiant. Alors, au final, peut-être qu'on sort un peu du thème de la matinée, parce que là, on n'est pas sur des étudiants actifs et des enseignants interactifs, on est sur des étudiants qui sont interactifs et un enseignant qui est attentif. Et le fait de prendre du recul, bah, c'est bien pour nous, parce qu'on va pouvoir voir, dans un premier temps, pendant que les étudiants réalisent le QCM en groupe, on va les écouter, on va se glisser derrière eux, on va voir les arguments qu'ils utilisent. On se dit, ah bah tiens, là, ils n'ont vraiment pas compris du tout la chose. Ou alors, on va se dire, ah bah tiens, lui, il a bien intériorisé. Et puis, du coup, les autres écoutent et sont attentifs. Donc, nous, ça va nous permettre de décortiquer la façon dont ils ont appris les choses. Et un autre outil qui est utile, donc, comme je vous le disais, quand on récupère à la fin du QCM seul ces grilles, j'utilise un outil qui me permet de scanner l'ensemble des grilles. Et en une demi-heure, je peux avoir le temps de retourner au bureau les statistiques de toutes les questions qui ont posé problème. Donc ça peut remettre en cause mon dispositif parce que cette année j'ai oublié de parler de ça ou il n'y a pas eu d'activité qui correspondait bien. Mais ça permet aussi d'utiliser cet outil lors des évaluations de projet. L'outil, là, le QCM n'est pas noté, ils sont en formatif, mais le fait de savoir que tel étudiant, lors de 1, 2 ou 3 QCM, n'a pas été en mesure de répondre à certaines questions sur une connaissance donnée, ça va nous permettre, lors des évaluations de projet, de faire de la différenciation. Tiens, toi, tu as réussi à faire tel truc sur le projet, mais alors, est-ce que tu peux m'expliquer tel concept? Et parfois, on soulève des lièvres, hein, des choses qui n'ont pas été faites par les étudiants, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances, ou parfois, on a des bonnes découvertes, où en fait l'étudiant a pris conscience qu'il ne connaissait pas certaines choses, il a travaillé dessus, et puis du coup, lors du projet, ça s'est bien révélé. Et donc c'est un outil qui peut être aussi très utile en termes de diagnostic pour l'enseignant. Mais avant tout, le côté magique que j'évoquais, c'est qu'en fait, c'est surtout une expérience de vie. Les étudiants apprennent pendant la phase d'échange en groupe, pendant cette phase où ils essayent de se convaincre et d'argumenter, ils se rendent compte qu'ils ont des lacunes sur certains concepts, et donc ça renforce un certain nombre d'acquis ou ça leur fait acquérir de nouvelles choses.
Oui, j'ai une question concernant si les étudiants savent que ce n'est pas noté de départ.
Oui. En fait, le QCM est formatif, c'est pas noté, sauf deux choses qui imputent un zéro, c'est le fait d'être absent à l'activité ou le fait de tricher. Comme c'est pas noté, s'ils trichent sur la phase seule, ben du coup ils ont zéro. Donc en fait, ils jouent tous le jeu parce que voilà.
D'accord, il n'y a pas de note sinon. De départ,
et ils le savent.
On sait très bien quand ils savent qu'il y a une note ou fin à la fin de l'application.
Et c'est ça, et ça répond peut-être à la question de monsieur tout à l'heure. En fait, on a des QCM qui sont formatifs. Et les étudiants travaillent pour ce QCM, parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose, et comme c'est évalué en groupe, bah, y a un peu de leur honneur, enfin, quelque part. Donc ils le font pour les autres, ou pour eux, mais plus pour l'enseignant ou la note.
Moi j'ai deux questions. La première, c'est la répartition de ce QCM dans le temps de votre enseignement. C'est-à-dire que vous le faites dans la même séance, ou au contraire c'est réparti au début du cours et puis à la fin du cours, comment c'est réparti comment vous le faites entre la partie où ils le font seuls et la partie où ils le font en groupe? Et ensuite, c'est ce côté mise en groupe, est-ce que c'est de nouveau les mêmes questions qui reviennent ou c'est dans une base de questions que vous piochez?
Alors, pour la première question, ce dispositif, ça dure à peu près 1h20, et donc on enchaîne la phase question seule, question en groupe. Dans le cadre de l'UV, on a 60 heures, et c'est réparti à peu près au bout d'une vingtaine d'heures, quand ils ont acquis un certain nombre de techniques, d'outils, de méthodes, et aux deux tiers de l'UV, et à la fin de l'UV, juste avant l'évaluation, la restitution finale du projet. Donc en fait, voilà, c'est assez bien réparti tout au long de l'UV. Et votre deuxième question, c'était par rapport à la base de connaissances. Donc en fait, dès le début de l'UV, les étudiants ont un ensemble de concepts, une liste de concepts à acquérir. Certains simples, certains compliqués. Donc il y a un code couleur, le niveau vert, le niveau orange et le niveau rouge. On leur dit que pour le premier QCM, il faut atteindre le niveau vert, pour le deuxième, le niveau orange, et pour le troisième, le niveau rouge. Sachant qu'à chaque QCM, on a une base de questions, une grosse base de questions, et les questions reviennent. Ce n'est jamais les mêmes, mais parfois, elles ressemblent vraiment beaucoup, avec un détail qui fait que tout change. Et c'est ça où ils me trouvent peut-être un petit peu vicieux, c'est parce qu'en fait, j'ai besoin de mes QCM chaque année. Donc on va avoir un pas dans une phrase, on va avoir un mot-clé qui a été échangé avec un autre, et donc ça évite le fait de répondre en voyant vite les résultats, on se dit « ah ben voilà, la bonne réponse c'est celle-là ». En fait, il faut être très attentif à chacun des mots, et c'est le fait d'être en groupe qui fait qu'on se rend compte « ah oui, mais non, mince, j'ai compris complètement la question à l'envers ». Donc en fait, les thèmes reviennent systématiquement, et s'ils sont rendus compte au premier QCM qu'ils n'avaient pas la maîtrise d'un certain domaine de connaissances, ils ont les deux autres QCM pour revoir ça encore et encore, en montant crescendo la difficulté.
Oui, juste une dernière question. Et ça concerne combien d'élèves et il y a combien de questions dans le QCM?
Donc ça concerne une soixantaine d'élèves. Selon les années, ça peut varier entre 50 et 60. Et par QCM, une vingtaine de questions. Une vingtaine de minutes, une vingtaine de questions. Alors après, voilà, ça va dépendre des questions selon comment elles sont faites. À savoir que c'est assez peu des vrais-faux. C'est assez peu des questions sous forme de vrai-faux. C'est des questions où il y a une, plusieurs ou aucune bonne réponse. Donc ça nécessite vraiment de se poser et de réfléchir à ce qui est énoncé. Quoi.